Investigation, Justine Katz.
Aujourd'hui dans Investigation, on vous emmène derrière les murs de nos maisons de repos. Malnutrition, maltraitance, vol, arnaque, violence verbale, voilà les graves dérives dénoncées par plusieurs de nos témoins. Il existe en Wallonie et à Bruxelles plus de 750 maisons de repos et plus de la moitié sont des maisons privées commerciales, un secteur qui représente un important business où l'argent et la rentabilité priment parfois sur l'humain. Dans beaucoup de structures, le personnel n'est pas assez nombreux, les économies se font à tous les niveaux, comme sur la nourriture qui est rationnée, de quoi mettre la santé des résidents en danger. Anne-Catherine Crouffert est avec nous. Anne-Catherine, vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez réalisé cette enquête à la fin de l'année 2020, en pleine crise du Covid. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ?
C'est vraiment l'omerta, la peur de parler, la peur de rentrer dans les maisons de repos. On a contacté d'ailleurs des dizaines de maisons de repos et régulièrement, on se retranchait derrière la crise sanitaire, la crise de Covid. Non, on peut pas vous recevoir, c'est dangereux, vous comprenez. Alors qu'au JT, au journal télévisé et ailleurs, on faisait régulièrement des reportages dans les maisons de repos sur la crise sanitaire. Donc, on trouvait ça un peu particulier, vraiment percer, rentrer dans les maisons de repos. En général, on nous disait non, à part l'une ou l'autre exception. Alors, on a beaucoup discuté avec des parents de victimes. Ils nous ont montré des photos. On a discuté avec eux. On était presque à donner des interviews. Et puis, au dernier moment, ils avaient peur de différentes représailles parce qu'ils ont encore des familles à l'intérieur. Si c'est le personnel, eux, ils avaient peur que de la direction. Et donc, même à visage caché, c'était vraiment compliqué. Il était vraiment difficile d'avoir des témoins face caméra, mais on en a finalement quand même trouvé. Ils étaient très courageux parce qu'ils ont voulu s'exprimer pour justement dénoncer les faits, pour que ça change justement.
On vous emmène tout de suite derrière les murs de nos maisons de repos. C'est notre investigation du jour. Elle est signée Anne-Catherine Crouffert, Charlotte Collin et Fadi Khalifi.
Pour commencer, imaginons que vous êtes une famille composée de 4 personnes, 2 adultes, 2 enfants. Vous devez nourrir tout le monde avec 4 euros par personne, petit déjeuner, dîner, goûter et souper compris. Est-ce réaliste ? Oui, évidemment c'est possible. Dans beaucoup de maisons de repos, c'est même la norme. Mais qu'y a-t-il dans les assiettes ? Un après-midi ensoleillé, nous avons rendez-vous avec Nadine dans son appartement à Bruxelles. Directement, un mélange de rage et de tristesse se dégage de sa silhouette, surtout quand on évoque les dernières années de vie de sa maman Blanche. Elle décède à 99 ans dans une maison de repos située juste en face de son appartement.
Je suis éminemment soulagée de savoir qu'elle n'y est plus.
Nadine passait plusieurs fois par jour lui rendre visite.
Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que la rue que vous avez devant vous et les rues adjacentes, je n'y vais plus. Je ne crois pas que j'irai avant longtemps.
Nadine souffre toujours en repensant aux mauvais traitements que sa maman a subis. Elle estime notamment qu'elle a été extrêmement mal nourrie.
Au niveau des repas du soir, moi j'estime que la plupart du temps, ce qu'ils avaient sur l'assiette, c'était absolument scandaleux. Des tartines avec un peu de margarine, pas trop, un petit peu de salami, et c'est comme ça à peu près tous les soirs. On vous propose à la Noël un petit plat de réveillon, et puis quand vous voyez ce qu'il y a sur l'assiette, c'est pas du tout ça. Les crevettes, elles sont pas là, le saumon, il est pas là, oui, le flétan, il est là, mais c'est tout. C'était certainement pas raffiné, c'était de la cantine.
Les mots sont durs, à peine croyables. Lors de nos recherches, on entend des histoires semblables. Mais peu de victimes osent témoigner ouvertement, peur de représailles. Anne de Ruder a aussi perdu sa maman dans une maison de repos, en pleine crise sanitaire du Covid.
C'était de très mauvaise qualité. Le soir, on ne leur donnait que des tartines au sirop de liège. Le régime ne comprenait pas le moindre fruit, jamais. Aucun fruit frais, extrêmement peu de légumes. On leur donnait de la soupe aussi, mais de la soupe en boîte, hein, c'était de la poudre diluée. Donc je pense que les carences en vitamines sont très très courantes dans beaucoup d'établissements, oui.
Pour nous éclairer, on part à la recherche d'un cuisinier de maison de repos. un parcours du combattant. Finalement, nous décrochons un rendez-vous avec le cuisinier d'une grosse maison de repos privée. Il a peur pour sa place. Alors, nous déformons sa voix pour qu'on ne le reconnaisse pas. Il nous explique ses contraintes. Il doit faire avec les produits que la maison de repos a commandés, pas un ingrédient de plus. Son budget imposé, 3,90 euros par résident.
Ah, là, c'est très répétitif. Et c'est surtout des viandes très bon marché. Donc, ça revient souvent des viandes lâchées. C'est souvent. Moi, c'est ça qui est un peu triste. C'est-à-dire qu'on pourrait faire mieux. Mais la triste, c'est que bon, c'est vrai, on emploie un minimum de crème, mais on va employer du lait. Vous allez lier avec des farines parce que ça permet de diminuer le budget. On tire par tous les ficelles. On fait une grande quantité de potage avec très peu de légumes. Ça, c'est sûr. Tout ce qu'on vous demande, c'est des résultats. Contrairement à ce qu'ils peuvent prétendre, ils ne vont pas veiller à ce que les résidents soient le plus satisfaits. Ouais.
La nourriture, c'est l'un des postes où les gestionnaires de maisons de repos réalisent des économies. L'argent est partout, tout le temps. Surtout dans les maisons de repos commerciales majoritaires sur le territoire. Elles appartiennent souvent à de grosses multinationales régulièrement cotées en bourse. Elles réalisent des milliards d'euros de chiffre d'affaires par an.
C'est un marché au sens économique et en termes philosophiques, c'est quelque peu interpellant de se dire que des personnes assez vulnérables font l'objet d'une forme de marchandisation.
Jean-Marc Rombaud, économiste, qui connaît bien le secteur des maisons de repos.
Je ne dirais pas qu'on les utilise, mais finalement, c'est un bien qui permet de faire du profit comme une voiture, comme un pot de yaourt. Disons, philosophiquement, c'est quand même discutable.
Donc la personne âgée est un produit.
Je dirais qu'elle est marchandisée, de facto.
Le prix des maisons de repos est élevé et il ne cesse d'augmenter. 30 à 40% plus cher qu'il y a 5 ans. Un prix qui dépasse largement le montant de la retraite.
Premièrement, le prix de l'immobilier, de façon générale, a augmenté. Donc je crois qu'il faut garder ça à l'esprit. Deux, on a à juste titre souhaité des normes architecturales plus confortables, des chambres plus spacieuses, des cabinets de toilettes. Aussi, on a amélioré la protection incendie, mais ça aussi, il y a un certain coût. Un troisième élément qui a joué, c'est le niveau d'équipement. Pour vous et moi, c'est normal si on va à l'hôpital, qu'on ait un frigo, une télévision. Eh bien, maintenant, en maison de repos, c'est la même chose. Et donc, ça pèse quand même sur les prix.
Le prix que paye le résident couvre uniquement les frais d'hébergement. Quant aux soins, les maisons de repos reçoivent des subsides du gouvernement. Car ils coûtent cher, d'autant plus que les aînés rentrent de plus en plus tard en maison de repos, 85 ans en moyenne. Alors justement, qu'en est-il de ces soins ? Ils sont plus lourds et prennent plus de temps. Le personnel doit faire vite, encore plus vite. La pression et le manque de personnel amènent à des situations surréalistes. Nous retournons chez Anne de Ruder. Elle nous montre des photos prises dans la maison de repos de sa maman. Elle appartient à un grand groupe commercial.
Le personnel enfermait les personnes dont ils avaient peur qu'elles sortent de leur chambre en mettant des draps attachés à la poignée de la porte et à la rambarde du couloir. Ça, c'est un jour où je suis arrivée et où j'ai trouvé des excréments partout. Il n'y en avait pas que dans la salle de bain, dans sa chambre, dans le couloir devant la porte, partout.
Une autre photo montre sa maman assise en petite culotte dans un fauteuil. Tout autour, des flaques de nourriture par terre. Et sur elle.
Ben, on l'a laissée toute seule dans sa chambre pendant toute la journée. Et donc, elle était enfermée dans son fauteuil où elle était bloquée par une petite tablette qu'on avait mise pour l'empêcher de déambuler. Et là, elle avait laissé tomber un jus de fruits par terre et personne n'était venu le ramasser. Quand vous entriez dans cette unité, la première chose qui vous sautait à la figure, c'était la pestilence. Ça puait.
C'est notamment à cause d'un nombre insuffisant de personnel soignant que l'on arrive à de telles situations. L'argent, encore et toujours au cœur du vieillissement. il faut atteindre un maximum de la capacité d'occupation, surtout pendant le Covid, où de nombreux lits restent inoccupés. Cela va jusqu'à recruter des résidents de manière douteuse. On a mis la main sur un document de Senior Living Group, une multinationale cotée en bourse. La direction offre une prime de 500 euros à tout travailleur qui fait entrer un résident dans la maison de repos. Nous mettons aussi la main sur un tout autre document. Un peu comme les sociétés de produits, ils font des offres déguisées. Alors que la chambre coûte par exemple 90 euros par jour, ils vous proposent une promotion à 60 euros. En bas de page du contrat, il est écrit en tout petit que l'offre est uniquement valable pour une durée de 3 mois ou de 6 mois. Lorsque la période est écoulée, le résident ne désire plus changer ses habitudes et il reste donc là, au tarif plein. Certes, ce n'est pas illégal, c'est commercial. Mais les pratiques douteuses ne s'arrêtent pas là. Lors de notre enquête, on rencontre Marielle Collins.
Alors là, on était estomaqués. Quand on a découvert ça, on a perdu vraiment toute confiance par rapport à la facturation du téléphone.
Yvan, son papa, est placé en maison de repos. En analysant les factures qu'il reçoit, Marielle découvre des arnaques téléphoniques.
On a analysé donc les factures de plus près et on n'a absolument trouvé aucune logique. Donc moi, je croyais que j'avais le jackpot ici à 44 secondes à 5,32 euros. Mais finalement, ici, c'est encore pire. C'est 53 secondes, mais il n'y a pas eu de communication et c'est 7,03 euros.
On lui facture des dizaines de coups de fil qui n'ont jamais abouti. La direction ne nie pas. Elle explique que tout appel entamé, qu'il aboutisse ou non, est facturé à cause du système informatique.
On s'est senti vraiment volé. Le numéro n'aboutissait pas et on devait payer, enfin, il devait payer 5 euros pour un numéro qui n'a jamais abouti nulle part. Et dire qu'ils reconnaissent que ces systèmes ne fonctionnent pas et que c'est à prendre ou à laisser, moi, je suis choquée.
Au cours de notre enquête, nous rencontrons Ariane Vandenbosch. Elle a perdu sa maman en pleine crise sanitaire. À cette époque, aucun membre de la famille ne peut se rendre dans la chambre. 15 jours plus tard, on lui remet les affaires de sa maman.
On a constaté qu'il manquait une flopée de choses. Des choses futiles, des denrées alimentaires, de la vaisselle, des patères, des lampes de bureau, horloges murales, etc. Des choses moins futiles, comme un GSM et comme une grosse somme d'argent. Il y avait au fond d'un tiroir, de ma maman, 5000 euros dans une pochette, au fond d'un bloc tiroir. Alors, c'est évident, c'est pas prudent de garder 5000 euros, une somme comme ça, dans un lieu semi-public. Mais bon, voilà, ma maman veillait à rester autonome et le fait de garder son autonomie financière... Ben voilà, ça pouvait compenser une perte d'autonomie physique, peut-être. Voilà.
Ariane est l'une des rares personnes qui a déposé plainte à la police.
Ma sœur et moi, on savait pertinemment bien qu'on n'allait pas récupérer le GSM et la somme d'argent. Mais pour nous, c'était important de déposer plainte pour poser un acte. Pour poser un acte, pour mettre fin à ces pratiques tout à fait inciviques qui ont malheureusement lieu dans ces lieux. Et quand j'en ai parlé autour de moi... Plusieurs personnes m'ont dit avoir vécu la même chose. Donc des sommes d'argent qui avaient disparu, une chevalière, des bijoux, etc. qui avaient disparu. Et les gens n'osent pas porter plainte. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas prouver que cette somme était là. Ils ne peuvent pas prouver que le défunt avait une chevalière à son petit doigt, etc. Et pas porter plainte, c'est laisser la porte ouverte à ces pratiques qui manquent totalement d'éthique.
Rentabilité, argent, pression sur le personnel, mais ce n'est pas partout pareil. Au milieu des centaines de maisons de repos en Belgique, il y en a qui fonctionnent vraiment différemment. Le Regina en fait partie. Lors de notre enquête, nous sollicitons cette maison de repos située près de Pennes. La direction accepte immédiatement notre proposition de passer une journée avec les résidents. Le Regina se base sur un modèle scandinave, le modèle tube.
On fera toujours appel aux souhaits du résident. C'est vraiment le principe de comme à la maison.
Gabrielle Tribbles, directrice du Regina.
Donc, il peut fumer en chambre, il peut avoir son animal en chambre, il peut décider de vouloir un bain aujourd'hui ou pas aujourd'hui, il peut décider de venir manger en chambre, de rester en chambre ou de venir manger dans l'unité de vie.
Ça va ?
Tu peux expliquer toutes les photos que tu connais.
Dans la société actuelle, on a tendance à décider à la place des aînés et à les infantiliser. Mais pas dans le modèle tube. Stéphane Adam est psychologue du vieillissement.
Dans la société, de façon générale, on laisse peu la parole aux aînés. Et changer le management plus comme à la maison de nouveau et tout le monde participe à la décision, plutôt que de façon hiérarchique, eh bien, va avoir des apports positifs autant pour les professionnels que les résidents. Et donc ici, en changeant le mode de dispositif, il y avait une crainte au départ qui était « Mais comment pouvons-nous faire cela dans toute la charge de travail que nous avons ?» Et le recul de 3 années de ce changement fait que ça n'a pas augmenté la charge de travail, ça a même globalement diminué la charge de travail des professionnels.
Goûtez un peu, voir si elle est bonne.
Bonne, hein.
Dans le modèle tube, on accorde une place prépondérante aux relations interpersonnelles et à la participation des résidents. Gabrielle Tribbles, directrice du Regina.
Nous avons décidé au départ d'engager des éducateurs qui vivent dans l'unité de vie avec le résident du matin au soir, ce qui permet à l'équipe de soins de libérer du temps pour ce qui est soins infirmiers. Et au final, vous avez déplacé la dépense sur un autre corps de métier, mais ça n'engendre pas plus de frais, c'est pas vrai.
1 heure, 2 heures, 3 heures, alors quand tu arrives là...
En clair, les résidents se sentent mieux psychologiquement et donc ils sollicitent moins souvent le personnel. Des résultats positifs au point que la région wallonne a débloqué un budget pour financer le développement d'une 40aine de maisons de repos sur ce modèle. Un investissement qui est loin d'être un luxe. Aujourd'hui, revoir le fonctionnement et le financement des maisons de repos et de soins est une nécessité si on veut que les personnes âgées vieillissent dans la dignité.
On est de retour en studio avec nos 3 invités que je vous présente tout de suite. Marc Collot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'un des fondateurs du gang des Vieux en Colère, un groupement citoyen de plus de 15 000 membres. Stéphane Adam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, professeur et psychologue du vieillissement à l'Université de Liège. À vos côtés encore, Marc Leubrouck, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin généraliste et médecin coordinateur en maison de repos. Ma première question, elle est pour vous. Quel est l'état de nos maisons de repos aujourd'hui en Belgique?
Elle n'a pas changé depuis l'investigation à laquelle j'ai participé, à part une chose, c'est les dégâts que la crise Covid a apporté dans nos maisons de repos. Parce que là, effectivement, il y a eu des dégâts, pas seulement au niveau des patients, mais aussi au niveau du personnel. Donc on a vu pas mal de choses se passer, du personnel qui a quitté sa profession, du personnel qui n'a pas voulu se faire vacciner et pour cette raison-là a aussi quitté la profession. Donc il y a quand même eu pas mal de dégâts dans les maisons de repos.
Donc le personnel qui était déjà en sous-effectif,
oui,
se retrouve encore moins nombreux.
Oui, oui, oui.
Ça a des conséquences sur les résidents?
Absolument, parce qu'on a demandé aux gens qui n'avaient pas l'habitude de se comporter comme une infirmière de soins intensifs. Donc il fallait effectivement apprendre de s'habiller avec des masques, avec des vêtements, des gants qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire dans les soins journalières. Et en plus de ça, ils ont vu souffrir, mourir leurs patients qu'ils connaissaient depuis des mois ou des années, ce qui est naturellement un problème supplémentaire au niveau de ce personnel-là.
Quelles ont été les conséquences alors sur la qualité de vie des résidents?
Donc on a essayé le maximum, hein. Donc je pense qu'effectivement ils se sont dévoués au niveau des soins le plus qu'ils pouvaient. Mais ce qui s'est passé et ce qu'on a pas, ce qu'on a quand même remarqué, c'est qu'il y a eu beaucoup de solitude, hein. Donc les patients étaient isolés dans leur chambre, ils avaient plus de contacts ou des contacts extrêmement difficiles avec la famille qu'il y avait. Et donc ça a effectivement posé un problème supplémentaire. Donc ils ont vraiment, il y a beaucoup de gens qui sont morts en solitude, hein, encore plus de solitude qu'avant.
La maltraitance, la malnutrition, c'est une réalité encore aujourd'hui dans les homes.
Je pense que ça existe toujours dans certaines maisons plus que dans d'autres. On doit y être attentif, en plus parce qu'avec le manque de personnel, on doit recruter parfois des gens, on cherche des gens et qui ne sont pas toujours à la hauteur des soins chez les personnes âgées. Moi, je suis persuadé qu'une infirmière qui travaille dans une maison de repos doit être extrêmement bien qualifiée. Ce sont vraiment les infirmières qui doivent être polyvalentes, qui doivent connaître tout et qui doivent être à l'écoute de leurs patients, beaucoup plus peut-être que les infirmières dans les hôpitaux.
Marcolo, vous, en tant que fondateur de ce gang des vieux en colère, est-ce que vous recevez beaucoup de témoignages sur des maltraitances, des abus dans des maisons de repos ?
Ben, disons que oui, nous en recevons beaucoup, je ne peux pas dire, parce que il y a quand même, je ne dirais pas, comme Anne-Catherine Crouffert tout à l'heure parlait d'Omerta, mais il y a une peur. On n'a pas envie de parler de ce genre de choses à l'extérieur. On le vit ça même déjà très très mal en général et on n'a pas envie de l'étaler. Mais nous avons des témoignages, j'en ai quelques-uns ici, mais bon, c'est pas la peine d'entrer dans les détails. Mais je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que dans les maisons de repos qu'il y a un problème avec les seniors. Il y a aussi les services de gériatrie dans les hôpitaux où un certain nombre d'infirmières ou d'infirmiers ne sont pas du tout à l'écoute de leurs patients et les traitent comme des bébés et ça devient de l'infantilisme et c'est éminemment désagréable. C'est un manque total de respect vis-à-vis des gens qu'on est amené à soigner.
Stéphane Adam, vous êtes psychologue du vieillissement. Est-ce que vous rejoignez Marcolo sur ce constat que le personnel est relativement mal formé pour prendre en charge les personnes âgées ?
Les personnels médicaux et paramédicaux de façon générale, hein, dans les écoles de médecine ou dans les écoles paramédicales comme infirmiers et infirmières, quand on pose deux questions aux professionnels, quel est le pourcentage des patients que vous voyez qui ont plus de 65 ans ? À part les pédiatres, c'est plus de 50%. Si on travaille en maison de repos, c'est 100% des personnes. Et la deuxième question, c'est quel est le pourcentage d'heures de formation dans vos cursus de base qui concernent le vieillissement ? C'est parfois 0%, parfois 4%. En tout cas, c'est en moyenne 4%. Ça veut dire que je suis amené à soigner des gens pour lesquels j'ai peu, voire pas de qualification. Et soigner une personne âgée, ce n'est pas la même façon que soigner un jeune, un adulte. La manière de communiquer avec la personne, comme ce qui a été évoqué, la dimension relationnelle qui prend encore plus d'importance. Et donc, ça, c'est un premier écueil de formation. Le deuxième, c'est que...
La dimension relationnelle, qu'est-ce que vous voulez dire ? C'est le besoin de parler ?
Oui, c'est un élément essentiel du soin. C'est la relation qui construit le soin. Si je viens, comme dans le soin à domicile, faire mon acte et que je précipite un peu les choses, je vais être dans une sorte d'injonction. Vous devez, je dois. Et la réaction, quand on dit « je dois », c'est qu'on a tendance à s'opposer et à refuser. Et donc, être en relation avec la personne, c'est l'éveiller à ce qu'on va proposer après. Donc, le temps que je perds à la relation, c'est du temps que je gagne dans mon acte professionnel après. Et ce qui est vrai pour le soin à domicile, et encore plus naturellement pour les maisons de repos.
Vous avez remarqué dans certaines études que, justement, l'aide-soignant ou l'infirmier s'occupait juste des soins et aurait le temps de parler aux résidents, oui, alors qu'il parle avec son collègue.
Il y a des études qui montrent que quand on met un enregistreur sur un professionnel dans une maison de repos et qu'on enregistre une journée type de travail, 10,7% du temps est consacré à s'adresser à une personne âgée. Ça veut dire qu'il y a 89,3% du temps qui est consacré à autre chose. Il y a plus d'échanges verbaux entre professionnels qu'il y en a entre un résident et un professionnel. Et c'est le système qui provoque un peu ça, et la formation aussi. Dans la formation, il n'y a pas de formation à la communication. On apprend des actes, des savoirs, des techniques, alors qu'une journée type de travail, c'est 20% d'application de savoirs et de techniques, et 80%, c'est peut-être parler à un collègue, parler à une famille, parler à un résident ou à un patient. Et donc là non plus, on n'est pas formé à cette communication et à l'importance qu'elle a dans le soin qu'on va prodiguer par la suite.
Marc Lebrouck, en tant que médecin coordinateur aussi en maison de repos, vous êtes d'accord avec ce constat ?
Oui, tout à fait, parce que par exemple, ce qu'on devrait faire et ce qu'on doit faire effectivement dans les maisons de repos, c'est établir un plan de soins anticipé. C'est très important, mais ça prend du temps. Et donc il faut effectivement former les gens à poser les questions au bon moment et de récolter effectivement les désirs et les vœux d'une personne âgée dans cette phase de sa vie. Donc je pense que c'est important de faire ça, mais très souvent quand je parle à mes collègues médecins coordinateurs, ils disent oui, on devrait faire ça, mais on n'a ni le personnel ni le temps. Parce qu'effectivement, tout le personnel est occupé à appliquer les soins, à donner à manger, à faire le lit et n'importe quoi. Tandis que cette information est tout à fait cruciale pour savoir ce que la personne veut quand les choses vont vraiment mal. Et effectivement, on n'a pas les moyens, ni le temps, ni le personnel qui peut effectuer cette tâche-là.
Vous, de votre côté, Marcolo, dans les témoignages que vous avez reçus, il y a d'autres éléments qui sont mis en avant par les membres de votre groupe ?
Oui, des éléments extrêmement malsains, si j'ose dire, parce que quand on entend des gens qui vous disent que leur maman a été droguée sans aucune autorisation de la famille, mais droguée pour être maintenue en camisole et pour cesser de crier, je m'excuse, mais il y a vraiment un grave problème. Et ça n'est pas des cas uniques, c'est pas 1 sur 100, c'est plus que ça. Alors là, je crois qu'on doit revoir le système, c'est évident. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la ministre Montréal, on a aussi rencontré le ministre Marron. Malheureusement, ça ne va pas plus loin, qui sont les deux ministres de la Santé, l'un bruxellois et l'autre pour la Wallonie. Mais ça ne va pas plus loin. Les réunions qu'on nous avait dites qu'on allait avoir avec l'AVIC, par exemple, qui est en Wallonie chargée notamment du contrôle, mais des contrôles qui sont inopinés, annoncés 2 jours d'avance, c'est pas ce qu'on appelle un contrôle inopiné.
C'est intéressant cette question des contrôles. C'est-à-dire que quand l'AVIC, par exemple, vient contrôler une maison de repos, elle prévient, c'est fixé à l'agenda.
Généralement, c'est fixé à l'agenda et les contrôles ne sont pas des contrôles de ce qui se passe dans la maison de repos. Ce sont des contrôles comme on contrôlerait le nombre d'étoiles d'un hôtel. C'est exactement du même niveau. Or, c'est pas ça qu'on veut. C'est un contrôle inopiné, fait par des gens qui sont totalement indépendants et qui puissent parler avec les patients, qui puissent parler avec les résidents, qui puissent parler avec le personnel soignant pour voir où sont les problèmes et essayer de les identifier et de les résoudre pour le bien-être de tous et particulièrement des patients.
Vous pensez, Marc Lebroux, qu'en tant que médecin, qu'il faut davantage de contrôle dans les maisons de repos, il n'y en a pas suffisamment ?
Oui, le problème, par exemple, du statut du médecin coordinateur est tout à fait faussé à ce point-là. Nous sommes dans la maison de repos comme médecin, on voit ce qui se passe, on voit quand il y a des problèmes, mais le problème, c'est qu'on est engagé, on a un contrat avec la maison de repos. Donc si, par exemple, le médecin coordinateur serait payé par l'État, comme, disons, une antenne de la sécurité sociale ou du ministère au niveau de la maison de repos, on pourrait effectivement adresser les problèmes qui existent. Et je suis tout à fait d'accord que les contrôles qui s'effectuent à l'heure actuelle sont des contrôles administratifs. On va voir si les infirmières ont bien coché dans le programme le nombre de toilettes ou le nombre d'activités qu'ils ont fait. Et si c'est en ordre, c'est en ordre. Ça, c'est le type de contrôle qu'on fait. Si l'échelle de 4 est correcte, bon, ça suffit. On ne va pas voir plus loin. Donc ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup de problèmes restent présents et ne s'adressent pas, ils ne sont pas changés.
Vous êtes aussi de cet avis, Stéphane Adam, vous qui connaissez bien ce monde des maisons de repos.
Oui, et en même temps, bien sûr qu'il y a des problèmes. Hein, donc je ne vais certainement pas... ça fait de nombreuses années qu'on évoque la nécessité du changement dans le secteur. Et en même temps, pour le moment, par exemple, on est en train de réaliser des audits de qualité de vie dans les structures. Donc on interroge directement les résidents pour savoir un peu leur perception de la qualité de vie en individuel. Naturellement, on va dans des structures où c'est des directions qui veulent faire cette évaluation, parce qu'on est dans un système maintenant institutionnel où il y a une pression, on a dit, moins d'attractivité pour les résidents, moins de capacité à engager parce que les gens n'ont pas envie d'aller travailler dans les maisons de retraite. Et donc maintenant, il y a une vraie volonté de changement parce qu'on veut être plus concurrentiel aussi que son voisin. Et donc, il y a une forme d'émulation qui est en train de s'opérer et qui n'était pas nécessairement existante avant, puisque qu'on fasse du mauvais ou du bon travail, globalement, on avait un taux d'occupation qui était assez élevé. Et donc, et quand on prend la peine d'évaluer la qualité de vie des résidents, bien sûr que certains sont plaintifs, hein, et pour des raisons qui peuvent être objectives, mais globalement, sur ce qu'on voit pour le moment dans les résultats, elle est plutôt relativement bonne. Mais naturellement, on est dans des structures où on nous invite à venir. Donc, on a une visibilité partielle.
Limité, oui.
Mais je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y a une nécessité d'évolution qui va dans la question même des normes en tant que telles, parce que le système même est biaisé. Je veux dire, si je suis directeur et que j'ai des résidents avec un niveau de dépendance modéré et que je fais bien mon travail, je perds des subsides parce que les résidents sont moins dépendants, parce que le forfait et 100% du subside est calqué sur le niveau de dépendance des personnes. Donc si je fais bien mon job, la structure perd de l'argent et je dois éventuellement se séparer de collaborateurs. Si je fais mal mon job et que les gens deviennent plus dépendants, je reçois plus de subsides. Donc là, naturellement, il y a un problème structurel important. Et je trouve assez intéressant la proposition qui est faite en région germanophone où 10% du subside d'une structure est lié à quel projet mettons-nous en place pour améliorer la qualité de vie des résidents. Et ça change complètement le regard et l'optique. Et ça décentre un peu de cette question de la dépendance en tant que telle et d'une forme de programmation financière de la dépendance.
Pour faire changer les choses, il faut parfois aussi une prise de conscience de ce qui se passe aussi dans ces établissements. C'est aussi l'objet de nos enquêtes journalistiques. Anne-Catherine, vous avez donc enquêté plusieurs mois sur cette question dans les maisons de repos pour investigation. Un autre journaliste français, celui-là, a également fait ce travail. Il a sorti récemment un livre choc sur les pratiques du groupe international Orpea. Finalement, les dysfonctionnements qu'il a mis en avant rejoignent ceux que vous aviez également pointés dans votre enquête.
Oui, tout à fait. Donc le scandale Orpea en France, si je puis dire comme ça, on parle de malnutrition, de vol, d'arnaque, d'irrégularité, de dysfonctionnement. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans les maisons de repos qui appartiennent au groupe Orpea, mais pas seulement, également dans d'autres grandes structures, des multinationales cotées en bourse pour la plupart, qui sont détenues par des fonds de pension, d'investissement ou encore des holdings ou des grosses pointures industrielles. Et que ce soit Orpea, Corian ou Harmonia, ce sont des maisons de repos où le seul but est de faire du profit. Et donc on a retrouvé exactement la même chose au niveau du livre qu'on a lu du journaliste français. Et ce qu'on a vécu pendant plusieurs mois d'enquête, c'est exactement la même chose. Donc il faut savoir qu'Orpea est un grand groupe français. Et ils sont présents dans 23 pays, ils sont présents en France, mais aussi en Belgique, en Chine, au Brésil, partout. Et Corian, c'est la même chose, c'est aussi un groupe multinational où il y a plus de 1000 établissements en Belgique. Et c'est un petit peu le même fonctionnement partout.
Ces structures privées, commerciales, Marc Holo, c'est quelque chose qui pose problème dans le paysage, cette commercialisation des soins de santé, des soins à la personne âgée?
Oui, je crois qu'effectivement c'est un grave problème, mais il a été soigneusement entretenu par le politique qui n'a pas fait son boulot. Il faut quand même pas nier ces choses-là. S'il y a 60% d'établissements privés en région bruxelloise et 40% de publics, c'est parce que les responsables politiques n'ont pas pris le taureau par les cornes et n'ont pas fait ce qu'il fallait faire.
En Wallonie, ça a été limité à 50%.
Ça a été limité à 50%, mais le travail n'est pas mieux fait sur le plan du contrôle et par conséquent, ça continue à mal fonctionner. Il y a quand même aussi un point sur lequel je voudrais insister, c'est que bon, dans le cadre du gang, notre principale recherche est de sauvegarder le système de pension actuel. Pourquoi ? Pour avoir la garantie que ça continuera à fonctionner comme ça fonctionne maintenant et de mieux en mieux si possible. Parce que c'est clair que les pensions ne sont pas suffisantes. Nous voulons absolument avoir une pension minimum de vieillesse et de pension décente de 1 700 euros. Pourquoi 1 700 ? Parce que il y a 1 500, on en parle depuis 3 ans, mais l'inflation étant ce qu'elle est, à l'heure actuelle, ça a été recalculé la semaine dernière, c'est 1 700 minimum. Et en corrélation de cela, il faudrait arriver à ce que les maisons de repos ne puissent pas faire payer plus que 1 700 moins 10% pour que quand même les vieux aient aussi un peu d'argent de poche. Ça me paraîtrait quelque chose de plus correct. Et il y a moyen financièrement, il y a moyen. Il faut réorganiser le système parce que c'est ça le problème. Personne ne veut voir que le système ne fonctionne pas et personne ne veut s'attaquer à la base du problème.
Aujourd'hui, une maison de repos, ça coûte bien plus que 1 700 euros par mois dans certaines structures.
Nous sommes parfaitement d'accord et logiquement, il faut, pour que les gens soient bien soignés et pour qu'ils puissent vivre leurs derniers jours de façon convenable et décente, il faut qu'il y ait une intervention plus importante, mais sur base du bon fonctionnement, du contrôle indépendant qui doit être fait et de la mise en place de nouveaux systèmes financiers.
Marc Lebrouck, sur cette commercialisation et cette privatisation aussi du secteur des maisons de repos, est-ce que vous trouvez aussi que c'est quelque chose qui met en péril la qualité du service, la qualité des soins ?
Je pense qu'on a fait une erreur importante en déléguant les soins pour les personnes âgées dans le secteur commercial. C'est un choix éthique, mais de dire, voilà, on a autant de personnes âgées, il n'y a pas assez de maisons ASBL ni de maisons CPAS, donc il doit y avoir un secteur commercial. Mais le secteur commercial n'a pas de réponse éthique à ce qu'ils font. Ils ont le seul but, c'est effectivement faire de l'argent. Et ce qui se passe dans les maisons de repos, il n'y a pas de réponse. Admettons par exemple une maison qui dépend du CPAS, alors il y a un facteur politique. Si la maison du CPAS ne fonctionne pas bien, la commune, les responsables, le bourgmestre et les échevins seront appelés à répondre sur cette question-là. Même chose pour quand il y a une maison ASBL qui dépend éventuellement d'une organisation, une église, une organisation catholique, il y a un fond éthique qui est en jeu, et là ça n'existe pas dans le secteur commercial.
Pour autant, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a que des problèmes dans le secteur privé et que tout va bien dans le secteur public?
Non, pas du tout. Effectivement, il y a effectivement des problèmes dans les autres secteurs aussi. Vu l'ampleur de ce secteur commercial, ils bâtissent des maisons énormes de 200-250 personnes. Les maisons de repos du CPAS sont en général beaucoup plus petites, une centaine. Et donc, c'est beaucoup plus convivial, beaucoup plus familial et beaucoup plus contrôlable aussi. Tandis que si vous avez une grosse boîte avec 200 patients ou 250 patients, c'est toute une autre histoire.
C'est vraiment un des éléments clés essentiels parce que les études sont assez claires par rapport même à la question de la crise Covid. On voit que 1% de la population belge vit en maison de repos, ça représente plus de 50% des décès liés au Covid. Et ce qui est vrai pour la Belgique est vrai dans tous les pays. Et c'est vrai que ce soit le secteur public, privé, etc. Mais il y a un élément clé, c'est la taille. Je dis chaque fois, si je donne cours à 200 étudiants, je ne connais aucun des étudiants. Si je veux savoir qui ils sont, je dois avoir un numéro de matricule. Et l'étudiant qui appartient à un groupe de 200, il est anonymisé dans la masse. Et si on est un peu timide, pour rentrer en relation avec d'autres étudiants, il faut se faire pénitence. Si je donne cours à 15 étudiants, je finis par les connaître. Et l'étudiant, il appartient à un groupe, à une famille. Donc, dire qu'il faut diminuer, c'est clair. Et dans le secteur du handicap, l'AVIC dit, pour les institutions pour personnes avec handicap, pas au-dessus de 50 lits pour que ça reste à taille humaine. Et dans une structure de 50, l'AVIC impose qu'il y ait une division de ces 50 en 4 unités de 10 à 15 personnes. Et donc là, on a les professionnels travaillent avec les mêmes résidents, ils se connaissent, il y a une relationnelle naturelle qui s'opère.
Ça, c'est pour les personnes handicapées, mais ça ne s'applique pas aux maisons de repos.
Mais ça ne s'applique pas aux maisons de repos, alors que c'est pourtant la même administration. Donc là, il y a vraiment une inspiration qu'on peut aller trouver dans ce secteur du handicap. Et pourtant, on est dans des situations de dépendance importantes. Donc, factuellement parlant, on a des tâches qui peuvent s'apparenter à des tâches qu'on peut rencontrer avec des personnes âgées qui souffrent de pathologies neurodégénératives et autres.
Marcolo, est-ce que vous avez des propositions concrètes, des idées de choses qui pourraient être mises en place à l'avenir ?
Mais je crois qu'il y a déjà toute une façon de voir le problème des maisons de repos ou plus exactement le vieillissement de la population. Je crois qu'il y a certainement, on sait bien que ça n'est pas possible pour tout le monde, mais il y a des gens âgés, c'est mon cas. Enfin, j'ai 75 ans, je ne suis pas encore très vieux, mais enfin, ça va. Si je devais me trouver dans une situation où je dois me placer, je chercherais une solution avec d'autres, mais pas nécessairement dans une maison de repos, dans une maison commune où nous puissions continuer à vivre chacun, peut-être pas indépendamment des autres, mais en communauté. On revient à peace and love, on est bien d'accord. Mais enfin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Et je crois qu'il y a des pistes dans ce domaine-là. Il y a
aujourd'hui,
aussi les pistes où les jeunes partagent, où il y a un partage entre âgés et jeunes dans une même maison, ou plusieurs, ça peut être, c'est pas limité.
Des maisons transgénérationnelles.
Voilà, exactement.
Aujourd'hui, entrer en maison de repos, ça fait peur ?
Je ne m'y vois pas. Vraiment pas. Mais j'ai la chance d'être mobile. Je fais tout ce que je veux. Je bouge, je voyage. J'ai pas de problème de ce côté-là. Donc évidemment, c'est plus difficile de s'y voir quand on est en bonne condition physique. Mais c'est vrai que pour certains, il n'y a pas moyen de faire autrement. Sauf peut-être en créant des formules de logement, de cohabitation, mais à condition en ce moment-là que l'État revienne en arrière sur le problème de la taxe sur les cohabitants, parce que là, il n'y a plus moyen d'y vivre. quand on a une petite pension et qu'on veut s'améliorer la vie en vivant avec quelqu'un d'autre, en tout bien tout honneur, dans une même maison, eh bien on vous coupe un tiers de votre pension. Ah oui, ça c'est la loi sur les cohabitants. Donc là, l'État bouffe à tous les râteliers et il met les gens dans la merde. Excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça.
Le politique Anne-Catherine, que fait-il? Est-ce qu'il y a des pistes qui sont étudiées en ce moment pour améliorer la situation dans ces maisons de repos?
Alors oui, justement, le Parlement wallon a confié il y a quelques mois la rédaction d'un rapport à 4 députés wallons pour aider à bien vieillir chez soi. Alors justement, ce rapport vient de sortir avec une cinquantaine de recommandations. On se tourne vers l'avenir où on prend vraiment le problème en amont. Alors Stéphane Adam, vous avez justement aidé à la rédaction de ce rapport.
Ça montre que le politique quand même s'approprie cette question, hein, c'est vrai. Et même par rapport aux maisons de repos, effectivement, vous expliquez que vous n'étiez pas mis dans la boucle. Moi, je pensais que si, mais il y a des réflexions par rapport aux maisons de repos sur la question de l'évolution des normes. Et par rapport à ce rapport-là, effectivement, il y a toute une réflexion sur qu'est-ce que bien vieillir chez soi. Et ce chez soi étant défini dans un sens large, c'est-à-dire dans sa maison, et comment je peux y rester le plus longtemps possible dans une maison qui n'a pas été construite en considérant l'évolution d'un vieillissement et d'une possible dépendance. Et ça amène aussi à des recommandations en matière d'aménagement et voire même de comment construire de nouveaux immeubles pour éviter une ghettoisation, pour tenir compte de l'évolution d'une dépendance, pour intégrer l'intergénérationnel comme on l'évoquait avant, et puis aussi une nécessaire évolution des maisons de repos. Et là, il y a une littérature abondante qui montre que plus une structure ressemble à un hôpital, comme c'est le cas hélas actuellement, moins bien les gens s'y portent d'une certaine façon. On devient là où on vit. Plus je suis dans un environnement qui met en avant ma dépendance, plus en quelque sorte je deviens dépendant.
Je vous vois réagir, Marc Lebrouck, vous êtes d'accord avec ça?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je repense dans ma carrière de plus de 35 ans, je n'ai pas eu 10 patients qui, de leur propre volonté, sont allés dans une maison de repos, qui m'ont dit maintenant ça ne va pas chez moi, tu vas à la maison, je dois aller dans une maison de repos. C'est toujours suite à un incident, un drame, chute, et puis ils sont à l'hôpital, et puis donc ils sont pris en révalidation, et puis après dans une maison de repos. Je dis souvent, si vous avez un certain âge, vous devez savoir qu'à un certain moment, vous serez plus en plus dépendant. Si vous n'avez pas une solution, il faut choisir la maison de repos maintenant. Donc choisissez votre maison de repos, allez voir ce qui vous plaît, et à ce moment-là, choisissez et ne laissez pas choisir d'autres personnes dans votre place, parce que très souvent, c'est à ce moment-là des grandes structures qui sont en première ligne.
Quels sont les conseils alors pour bien choisir sa maison de repos?
C'est extrêmement difficile, hein, parce que dans l'entrée d'une maison de repos, c'est tout du marbre et c'est très joli et c'est très accueillant et tout ça, mais c'est pas ça qui compte. Je dis toujours, essayez de poser la question à laquelle il n'y a personne qui veut répondre, et c'est très simple. On peut très bien vous dire quel est le prix du jour, 55, 57, 60 euros, je ne sais pas, mais demandez quel est le budget par jour pour la nourriture. Et là, c'est un secret très important. Il n'y a personne qui veut vous répondre là-dessus. Si c'est plus de 10 euros, c'est pas mal. Donc, sur les 50 euros que vous payez par jour, ou les 45 ou 47 euros, si vous avez un budget de 10 ou plus par jour, allez une fois voir, allez une fois manger, comme ça, avec les résidents. Ça, c'est un des éléments. Voyez un petit peu le nombre de personnel qui est présent, etc. Ce sont des éléments qui sont très difficiles. Je pense que pour moi, je conseille à mes patients, allez là ou là ou là. Parce que là, je sais que les soins sont corrects. Il y a un bon contact avec les infirmières. Il y a suffisamment d'infirmières. On vous écoute. La nourriture est bonne. Et présenté avec soin. Ce sont des petits éléments. Ce n'est pas le marbre à l'entrée qui joue. Hein. Donc, ce n'est pas ça qui joue, mais ce sont des éléments beaucoup plus subtils et beaucoup plus subjectifs qui jouent.
Anne-Catherine, il y a notamment ce modèle tube qui a déjà été implanté dans plusieurs maisons de repos. Qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est un modèle comme à la maison. Donc, on essaye de donner plus la parole aux personnes âgées. On essaye vraiment d'avoir leur avis, parce que dans la société actuelle, on a tendance à infantiliser la personne âgée et à décider à leur place. Et ce modèle tube, c'est un modèle qui vient de Suède et qui fonctionne bien. Par exemple, aussi au Danemark, il y a plus de maisons de repos telles qu'on les connaît maintenant, aujourd'hui. Et donc, ce modèle tube a été reconnu, notamment par la région wallonne, qui a financé il y a un an 36 maisons de repos qui ont envie de se déployer dans ce modèle, qui ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend plusieurs années.
C'est la fin de cette investigation. Merci à nos invités, merci à Amaury Boucher pour la réalisation de cette émission, et merci à vous qui nous écoutez.